Bonjour, je me nomme Hélène Chabot et je suis professeure de philosophie au Cégep Gérald Bonnet. Je suis aussi co-chercheuse dans le projet ELAC, une nouvelle approche de l'enseignement de la lecture littéraire au collégial. Dans ce balado, j'interviewe des enseignantes et des enseignants qui ont expérimenté l'approche. Ils nous font part de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont fait, des bénéfices encourus et des difficultés rencontrées, bref, de tout ce qui est susceptible de vous donner des idées et des outils pour vous lancer vous-même dans l'action. Dans cet épisode, je recueille le témoignage d'Annie Bourgoin, enseignante au département de français, langue et littérature du Cégep de Rivière-du-Loup. Annie nous raconte comment elle a planifié ses activités de classe en suivant le modèle des cercles de lecture. Bonjour Annie, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions.
Bonjour Hélène, ça fait plaisir.
On va parler de la planification en fonction des cercles de lecture. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire dans quel cours est-ce que tu as expérimenté les cercles de lecture?
Donc, j'ai commencé la première session, c'est à la session d'automne dernier. J'ai fait mes cercles de lecture dans le cours Littérature et imaginaire. Puis, j'ai refait l'expérience cet hiver en littérature québécoise.
OK. Dans les deux cas, c'est des étudiants de deuxième année, donc qui ont déjà eu des cours de littérature auparavant.
Exactement, parce que chez nous, on fait le cours de communication orale et écrite à la première session. Mm-hmm. Alors, ils étaient dans les deux cas, effectivement, dans le parcours, on va dire, traditionnel, sans trop de, probablement, d'échecs. Puis aussi, là, c'était des étudiants quand même assez avancés en lecture, dans le sens qu'ils sont en deuxième année.
OK. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant les cercles de lecture?
Peut-être pas de manière aussi organisée et structurée. Ce que je faisais, j'avais tendance à placer mes étudiants souvent en équipe de quatre. Mm-hmm. Pendant un cours, je donnais des questions. Les étudiants avaient à répondre à des questions, soit sur papier. Je l'ai fait aussi avec Padlet. Mais structuré comme je l'ai fait, là, avec l'approche, là, je pense qu'on est un petit peu ailleurs, puis ça donne aussi de meilleurs résultats, je pense.
OK. Puis qu'est-ce qu'il y avait de différent entre les deux?
Bien, de différent, peut-être, dans mon ancienne méthode, souvent, ça devenait parfois un petit peu long en classe parce que les étudiants répondaient aux questions entre eux et après ça, ils devaient repartager. Tout le monde avait souvent les mêmes questions. C'est peut-être un peu moins dynamique. Ils arrivaient peut-être pas toujours non plus assez près à ces cours-là où on devait analyser.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la séquence que tu as suivie? Comment tu as organisé ça? En fait, de quoi tu es parti au départ pour pouvoir planifier tes cercles de lecture?
Donc, avec l'approche, j'avais développé le cadre de référence.
Oui.
Donc, on avait des concepts à définir en classe avec les étudiants, des concepts qui allaient traverser la session, les œuvres de la session. Mm-hmm. Alors, j'avais cet angle-là qui était quand même important, qui devait traverser aussi mes cercles de lecture, bien entendu. Alors, j'ai commencé par, pour chacune des œuvres, là, si on veut aller chercher la structure, comment j'ai structuré les cercles, pour chacune des œuvres, en classe, je présente l'œuvre dans un premier cours. Ça peut prendre une heure, 30 minutes à une heure, selon le temps que j'ai. Là. Mm-hmm. Donc, je présente l'œuvre. On lit les premières pages ensemble. On se pose des questions. On réfléchit. On identifie les difficultés de lecture. On peut faire aussi des prédictions. Donc, ça commence toujours comme ça là, quand on entre dans une œuvre. Une fois qu'on a fait ça, je divise mes étudiants en équipes de quatre. Donc, je divise toute la classe en équipes de quatre. Puis, en début de session, on avait vu des stratégies de lecture pour entrer dans une œuvre, que ce soit une œuvre romanesque, théâtrale ou selon le genre. Et je, j'ai, moi, préalablement identifié des stratégies de lecture qui seraient pertinentes pour la lecture de l'œuvre en question. Mm-hmm. Alors, je donne à mes étudiants, dans l'équipe de quatre stratégies de lecture différentes. Donc, chaque étudiant va avoir une stratégie de lecture à appliquer. Quand on parle de stratégie de lecture, là, on peut parler d'observer le portrait d'un personnage, de faire le portrait d'un personnage, d'étudier les liens, les relations entre les personnages, l'espace et le temps, la narration. Donc, c'est ce type de stratégie-là que les étudiants doivent appliquer.
OK.
Là, une fois que les étudiants ont chacun leur stratégie, ils partent à la maison et font leur lecture et ils appliquent la stratégie, ils lisent dans l'angle qui leur a été donné. Ils doivent me produire un petit texte. Ben, je dis un texte parce que c'est souvent ce que j'ai demandé. Je pourrais demander autre chose, mais un petit texte de 150 à 200 mots prouvant qu'ils ont appliqué la stratégie. Donc, ils doivent me dire un peu ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont vu, nommer des pages. Puis, ils doivent être dans une posture analytique à ce moment-là. C'est pas seulement une posture descriptive, là.
OK.
Je veux pas de résumé là-dedans.
Oui, c'est ça. Est-ce que il devait faire cette tâche-là sur toute l'œuvre? Donc, à quel moment est-ce que...
Bon, la plupart des œuvres qui sont plus longues, un roman, par exemple, en littérature imaginaire, j'ai étudié l'adversaire. L'adversaire, je l'ai séparé en deux parce qu'on est dans une œuvre de peut-être 300 ou 400 pages.
Ouais.
Donc, on a lu une partie de l'œuvre, puis on a fait un premier cercle de lecture. Après ça, on a lu l'autre partie de l'œuvre et j'ai organisé un deuxième cercle de lecture. Donc, on n'arrive pas au cercle de lecture sans avoir travaillé un peu.
Oui.
Pour que le cercle fonctionne idéalement, il faut que les étudiants se soient préparés. Ben, ce qu'on fait, là, les petites tâches d'application de stratégie, moi, je les comptabilisais dans le portfolio parce que j'ai un portfolio aussi. On pourrait peut-être mettre des notes aussi, si on veut, là, pour ce type de travail-là. Mais pour ma part, c'était vraiment le billet d'entrée pour le cercle de lecture. Puis c'était une activité qui était oui. pour la du portfolio.
Okay.
Alors, ils arrivent en classe et là, j'ai préparé des tâches. J'ai préparé trois tâches, quatre tâches pour un cours, par exemple, de 2 heures. Là, les tâches, ça peut aller dans tous les sens encore, mais c'est structuré dans le sens que moi, je connais mes énoncés de dissertation. Alors, je me dis, mais les étudiants, ce serait bien peut-être qu'ils voient tel ou tel aspect dans l'œuvre, qu'ils en discutent. Parce que ça va leur être entre autres utile pour la dissertation. Donc, je ne donne pas les sujets, mais j'oriente les discussions pour que les étudiants soient outillés à répondre aux énoncés éventuellement.
C'est ça.
Alors,
bien, c'est ça, en fait, le choix des tâches du cercle de lecture, des activités, est fait en fonction de la préparation aux rédactions. Donc, vraiment dans un alignement là, avec l'évaluation.
Exactement.
Mm-hmm.
Puis, ben là, si on revient avec le cadre de référence, souvent, on a étudié des concepts en classe. J'ai présenté des concepts en classe. Puis, pendant le cercle de lecture, souvent, on va faire référence à ces concepts-là dans les tâches.
Mm-hmm.
Donc, il y a une espèce de cohérence qui se crée entre ce que j'ai enseigné, ce sur quoi ils travaillent dans le cercle et éventuellement les énoncés de dissertation.
C'est ça. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de concept sur lequel ils auraient eu à discuter dans un cercle à propos d'une œuvre?
Bon, par exemple, l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Bon, on a travaillé les rôles de l'imagination parce que c'est une vraie personne. Mmh. C'est pas tout à fait un personnage, c'est l'histoire de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman se définit par le biais du mensonge. Il essaie de reproduire un modèle social. Bon, qui il est dans tout ça, on travaille aussi son identité. On voit aussi la pression des modèles sociaux sur la construction de l'identité. Ça peut être des concepts comme ça. Puis, bien là, après ça, on va dans l'œuvre travailler nos concepts.
C'est ça. Donc, en fait, ça leur a donné du vocabulaire aussi pour guider leur discussion en cercle de lecture.
Ça leur donne beaucoup de vocabulaire en travaillant les concepts. Ça leur donne aussi des assises quand même solides parce qu'au moment où ils font leur rédaction, entre autres, Souvent, la recherche d'idées, c'est difficile. Ils sont souvent dans un même angle. Mais là, ça permet d'ouvrir justement la réflexion. Puis, on s'aperçoit, par exemple, que quand on travaillait les rôles de l'imagination, ils ont quand même travaillé un autre concept, là, de la pression des modèles sociaux, par exemple, ils mélangeaient un peu ces concepts-là, mélangés positivement, là, ils faisaient s'entrecroiser ces concepts-là quand ils formulaient leurs idées, entre autres.
Donc, il faisait des liens intéressants.
Oui.
Puis,
C'est
comment
bien.
ça... Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé concrètement, là, au moment de faire les cercles? Comment tu les as guidés? Ça a été quoi la séquence des activités?
Donc, je disais qu'on avait environ 3 ou 4 tâches pendant un cercle de 2 heures. Bon, ces tâches-là, ça peut être de trouver l'objectif de communication de l'œuvre, le propos. On peut faire des prédictions, on peut analyser les concepts justement, puis voir comment ils se déploient dans l'œuvre, travailler les quêtes de personnages. Ça peut aller même jusqu'à rédiger des explications selon où on est rendu dans la session, puis où on est rendu dans l'œuvre. Alors là, moi, j'ai planifié mes tâches. J'ai planifié une tâche d'à peu près une quinzaine de minutes. Les étudiants s'en vont avec cette tâche-là, qui est assez générale, assez large. Ça pourrait être, par exemple, comme première tâche, de partager ce qu'ils ont appliqué comme stratégie à la maison. Donc, ça brise la glace au début du cercle. Puis, ils sont pas trop gênés, ils sont des spécialistes de leur stratégie. Alors là, ça lève, on réussit à voir un peu s'ils ont lu la même chose, à voir s'il y a des problèmes de lecture, des erreurs de lecture. Après ces 10-15 minutes-là, par exemple, on revient ensemble en plénière, on discute ensemble de ce qui a été trouvé. Puis après ça, on part avec une autre tâche, en 10-15 minutes, on revient en plénière. Toujours dans l'objectif là, de penser à nos énoncés qui s'en viennent, de creuser l'œuvre aussi, comme il faut.
C'est ça. Donc, tout ça en l'espace de 2 heures, c'est quand même peu pour le nombre d'activités à faire, mais c'est rapide,
Bon,
c'est ça.
il faut tenir le temps, puis en même temps, mais après 15-20 minutes, souvent, les étudiants, ils auraient autre chose à se dire, mais ils relâchent un petit peu. Alors, j'aime mieux les reprendre en plénière, quitte à ce que d'autres choses sortent, des choses qui n'ont pas sorti quand ils étaient entre eux. Puis souvent aussi, pendant l'activité, pendant qu'ils sont ensemble, là, dans une première tâche, ils ont un petit travail à faire. Il faut qu'ils schématisent, ils doivent écrire aussi. Alors, on peut avoir un partage de ces schémas-là. Ça peut être d'écrire dans un Padlet. Alors là, après ça, on présente ça à tous. On commente ce que les autres ont commenté. Donc, on vient rajouter une couche dans la plénière, d'une
Oui,
certaine
c'est
manière.
ça. Intéressant. Alors, la différence avec les activités collaboratives que tu faisais avant, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la formulation de la consigne est plus en termes de tâches qu'une question sur l'œuvre à laquelle ils ont à discuter, puis dans la préparation. Toi, comment tu t'étais préparée à faire les cercles?
J'ai pas inventé ça. J'avoue qu'on a été bien formés par Catherine et Roxane. C'est sûr qu'au début, elles m'ont accompagnée beaucoup parce que y a certains éléments là, auxquels j'aurais peut-être pas pensé par moi-même. Mais à un moment donné, on finit par comprendre comment fonctionner. On voit aussi ce qui fonctionne en classe pour soi. Parce que j'imagine qu'il y a des choses que Roxane ou Catherine font en classe que moi, je ne ferais pas. Donc là, il faut vraiment que ça nous ressemble, je pense, qu'on va structurer nos cercles, comment on veut les faire.
Puis comment est-ce que tu t'assurais que justement les élèves discutaient des bonnes choses là, sans nécessairement, parce que c'est pas un cours théorique, il faut en quelque sorte qu'ils travaillent par eux-mêmes de manière autonome, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils s'en aillent dans tous les sens, là. Comment tu as fait pour les guider?
Ben, il faut avoir confiance en eux, mais il faut aussi circuler. C'est sûr que c'est pas un cours où on s'assoit devant à faire autre chose, là. On circule, on écoute un peu ce qui se dit. On regarde aussi s'ils sont en train de schématiser, de faire un travail, ben, est-ce que ça avance ou pas, poser des questions pour relancer la réflexion. Puis, autre chose, moi, c'est sûr que quand j'écris mes tâches, je me dis, ça serait bien que les étudiants aillent de ce côté-là ou de ce côté-là, qu'ils n'oublient pas qu'il y a tel élément. Alors, je m'écris des mots-clés, des petites phrases, des éléments, c'est pas des réponses, mais des éléments sur lesquels il faudrait qu'on discute. Alors, si je vois que ça avance moyen dans un groupe, ben, je relance avec des éléments auxquels moi j'avais pensé.
Okay.
Et là, ça repart habituellement.
OK. Alors qu'il y a probablement des groupes qui le faisaient par eux-mêmes ou allaient plus rapidement, mais pour les autres, tu avais quelque chose de préparé un peu, là.
Exactement. J'ai toujours des petites cartes cachées. Mais en tant qu'il y a des équipes dans lesquelles ça roule vraiment beaucoup, beaucoup, puis il y a des équipes où il y a une dynamique qui avance un petit peu plus lentement, mais en même temps, l'objectif, c'est de creuser l'œuvre, c'est de se faire une tête sur cette œuvre-là, de partager. Puis déjà, l'idée du partage, même s'ils sont allés moins loin dans une équipe qui allait peut-être plus lentement, ils sont probablement allés plus loin que s'ils avaient été seuls, par exemple, pour être là.
Oui, tout à fait. Puis comment tu as fait pour t'assurer justement que ce travail-là servirait plus tard dans la rédaction?
Bon, c'est sûr que pendant le cercle, au début de chacun des cercles, puis même pendant le cercle, je rappelle que c'est vraiment important de prendre des notes. Prendre des notes quand ils sont en petite équipe de quatre, mais aussi prendre des notes quand ils sont dans la plénière. Ça, c'est vraiment essentiel, là, parce que s'ils gardent pas de traces de ce qu'ils ont fait, ou par exemple, quand ils ont à faire un schéma. Le schéma, souvent, je le numérise pour eux, je leur redistribue pour que tout le monde ait son schéma. Puis ils peuvent, après ça aussi, je leur conseille à la fin de chacun des cercles, en devoir à la maison, de relire leurs notes, réannoter leur œuvre, bonifier le schéma s'il y avait eu un schéma. Donc, vraiment de s'approprier ce qu'on a dit pour que ce soit plus pertinent après. Et je pense que je pourrais bonifier ce que je n'ai pas fait, mais qui pourrait être fait. Ce serait peut-être de faire un petit bilan, soit sous forme de paragraphe ou encore là de schéma, de carte mentale. La forme importe peu, mais au moins de faire un petit travail individuel qui serait à remettre, entre autres, dans le portfolio, qui serait l'espèce de bilan de ce qu'ils ont retenu du cercle de.
Oui, donc ça pourrait boucler la boucle, tu sais, ils préparent leur lecture, mais il y a aussi quelque chose qui suit le cercle qui leur permet encore plus de retenir ce qu'ils ont appris à travers ça. Quel avantage as-tu vu à procéder de cette façon-là?
Ben, il y a quand même beaucoup d'avantages dans le sens que, premièrement, personnellement, j'aimais pas faire l'analyse pour les étudiants parce que on part en richesse. Je pense qu'ils sont capables de construire aussi leur pensée. Donc, j'ai toujours cherché des moyens de faire travailler mes étudiants pour que ça vienne d'eux. Puis on s'aperçoit finalement au bout du compte que l'analyse est souvent aussi riche que si c'était moi, même plus riche que si j'étais seule à porter un seul regard sur l'œuvre. Là, on multiplie les regards sur l'œuvre. Alors, c'est sûr que ça, c'est payant. On va souvent justement plus loin dans l'analyse. Les étudiants sont vraiment dans le plaisir aussi. Moi aussi, j'aime ça, voir ce qu'ils sont capables de me donner. Ils apprécient, c'est assez varié aussi comme type de tâche, c'est assez dynamique. Dans les rédactions, je m'aperçois aussi que le critère de justesse est parfois mieux réussi, peut-être mieux réussi. Le critère de justesse, par exemple, d'aller chercher les éléments, les faits de l'œuvre, d'être capable d'identifier, par exemple, quel personnage a fait quelle chose à quel moment. Là. Ça, il n'y en a pratiquement pas d'erreur liée au fait de l'œuvre parce qu'on a tellement discuté des œuvres puis on a géré ça aussi à mesure dans nos cercles de lecture.
OK. C'est intéressant. Mais en fait, ce que tu soulignes, c'est effectivement un des avantages des cercles de lecture, c'est d'avoir accès à leur interprétation en cours de route pour pouvoir la corriger. Puis à ce moment-là, ça fait, on l'espère toujours, des rédactions mieux réalisées. Est-ce qu'il y a quand même des écueils ou des difficultés que tu as rencontrées?
Bon, il y en a toujours, en fait. Bon, dans les difficultés, c'est sûr que c'est beaucoup de planification parce qu'il faut que le cercle soit cohérent, il faut mais en même temps, ça vaut la peine. Aussi, il y a pour ce qui est de la stratégie qu'ils doivent appliquer, puis le petit travail qu'ils doivent me faire en amont du cercle, bien, moi, j'essaie de donner une rétroaction. Alors, idéalement, il faut que les étudiants remettent leur application de stratégie le plus tôt possible avant le cercle, mais ils peuvent la remettre quand même, cette application de stratégie-là, pendant le cercle. C'est sûr qu'ils n'ont pas de rétroaction avant d'entrer dans le cercle. Donc, je la fais après, mais ils en reçoivent. Moi, je fais des rétroactions orales, audio, pour ça. Alors,
Intéressant.
ça va quand même assez vite. J'ai pas essayé de m'écrire des commentaires pour les copier-coller, là, les coller aux étudiants. Je trouvais que ça allait plus vite oralement.
Donc, ça fait
Alors.
partie des choses, là, si on veut évaluer ça aussi en cours de route. Bien, ça ajoute potentiellement à la correction. Donc, il faut prévoir des moyens pour que ça ne devienne pas trop lourd, finalement.
Exactement. Moi, j'avais toujours pour ces tâches-là en amont, là, des petites consignes, une mini-grille dans laquelle je me mets des plus, des moins. Les étudiants, ils voient s'ils ont bien fait ou moins bien fait le travail. Puis, le petit commentaire oral qui vient les ajuster pour dire, bien là, tu es dans une posture trop descriptive, il faudrait aller plus dans une posture analytique. Je leur donne des trucs de comment ils auraient pu aller plus loin.
Est-ce qu'il devenait meilleur de fois en fois à force de faire des cercles de lecture?
C'est sûr qu'au début de la session, c'est très nouveau comme manière de faire pour certains. Ils savent pas trop comment le faire, mais étonnamment, ils font assez bien. Mais il y en a quelques-uns pour qui là, je dois ajuster, là, ajuster le tir. Puis effectivement, ça se bonifie en cours de route. Puis je pense qu'ils prennent goût aussi. Quand même, autant pour l'application de stratégie, ce qu'ils me produisent, ça se bonifiait, mais pour les cercles, là, ils savent à quoi s'attendre, ils ont hâte au cercle. Alors, ça, c'est bien.
Et ils font le travail demandé.
En général, oui. Puis là, ben, il faut peut-être être un peu tolérance parce qu'ils font habituellement le travail demandé parce qu'il y a quand même trois autres personnes dans l'équipe qui attendent. Ben, qui attendent un regard, qui attendent ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est sûr que pour ça, ils le font habituellement, mais ça arrive qu'à un moment donné, un étudiant ne le fait pas. Bon, là, on décide avec l'équipe. Est-ce que vous le gardez? Est-ce qu'il s'en va lire chez lui ou est-ce qu'il va faire son application de stratégie? On évalue où on est rendu. Mais habituellement, quand un étudiant laisse glisser comme ça, ben, les fois d'après, il a fait le travail.
Il fait, c'est ça, il aura compris après.
Exactement.
Donc, j'imagine que tu prévois refaire des cercles de lecture dans tes prochains cours.
Oui, c'est sûr que je vais garder cette formule-là.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais de différent?
Bon, là, par exemple, cet hiver, j'enseignais Thomas la ferme. C'est une œuvre qui est assez courte. J'ai mis deux cercles de lecture pour cette œuvre-là. J'aurais peut-être pu faire un seul cercle de lecture, puis peut-être une plus longue activité préalable ou une autre activité après, mais les étudiants m'en ont voulu d'avoir coupé leur lecture. Il y aurait ça, là, peut-être faire plus attention si l'œuvre est courte. Autre chose, c'est sûr que j'aimerais vraiment là, ajouter une activité individuelle. Qui viendrait faire le bilan du cercle de lecture. Ça, j'aimerais ça ajouter. Ça ferait une autre pièce au portfolio. Puis ça vient tout fermer, tout refermer. C'est sûr qu'en
Consolider.
classe, oui, consolider. Au cours d'après, on revient un petit peu quand même de manière un peu informelle, là, voir s'il reste des questions. Mais ça consoliderait encore plus avec un petit travail.
Oui. Puis le cadre de référence, même chose, tu garderais ça comme ça? Est-ce que tu changerais ça un peu ou...
Le cadre de référence, il est précieux parce qu'il agit comme en toile de fond. C'est le fil conducteur, finalement, qui va attacher nos œuvres ensemble et qui va attacher notre discours, qui va donner de la cohérence à l'ensemble de ce qu'on a planifié puis à l'ensemble des discussions qu'on a. Puis oui, ça, c'est quelque chose que je veux garder, là, c'est certain.
Donc, ça aide finalement à faire en sorte que les discussions dans le cercle de lecture soient bien faites. Parce que ça leur donne du vocabulaire, puis à ce moment-là, à bonifier avec la lecture de l'œuvre.
Oui, ça leur donne du vocabulaire, ça leur donne aussi une base sur laquelle ils peuvent s'asseoir pour lancer des idées ou si à un moment donné, ils ne savent plus trop comment prendre la tâche, je leur rappelle, n'oubliez pas, on a des concepts. Et là, ils repensent, ah oui, l'imagination ou l'identité. Et là, ça relance aussi la réflexion. Ça ouvre un peu plus la discussion.
Donc, ça a bien fonctionné avec le cadre de référence. Ben, ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup, Annie, d'avoir participé au balado.
Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Merci. L'approche de l'ELAC a été développée dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par le programme PAREA avec Catherine Bélec et Roxane Doré. Pour plus d'informations, consultez notre site web elac.ca. Ce balado a été rendu possible grâce à l'Élan. La captation sonore et le montage sont réalisés par Rémi Assal.